Alors, prendre le maquis, le titre.
Alors c'est une formule qui est passionnante parce que c'est une formule bien antérieure à la Seconde Guerre mondiale. Et alors là aussi, on fait de la, ce qu'on pourrait appeler des mémoires palimpsestes, c'est-à-dire que les résistants eux-mêmes, bah, ils avaient lu, ils avaient entendu des récits d'avant et qui nourrissaient leurs imaginaires. Et se prendre le maquis, c'est une formule qui est empruntée à Prosper Mérimée, un grand écrivain majeur du 19e siècle, qui est d'ailleurs venu dans le Vercors, hein, il est allé à Léoncelle. Et il y a dans l'œuvre de Mérimée et d'autres la figure du bandit corse, du bandit social, du bandit d'honneur. Et bah, lorsqu'il y a une vendetta dans un village, celui qui est incriminé disparaît, hein, dans la végétation extrêmement dense méditerranéenne, le maquis. Hein, et il prend le maquis pour échapper à la vengeance. Et donc il y a plusieurs grands textes littéraires dans la littérature française, mais aussi anglaise, hein, de cette époque-là, qui projettent sur la Corse. Voilà, c'est l'aube de la dissidence en forêt, en quelque sorte. Et puis on peut aller encore beaucoup plus loin dans le temps, et puis convoquer des figures régionales très connues comme Mandrin, qui résonnera, hein, à nouveau en 39-45, mais aussi Robin des Bois, etc., etc. Alors, ça veut dire que cette littérature, elle est, au XIXe siècle, il y a les colporteurs qui circulent, donc elle s'est diffusée partout, jusque dans les campagnes, hein, donc il y a comme ça des images très fortes qui sont reconvoquées au sein des réfractaires, hein, dont certains deviendront des combattants. Voilà quelques clés explicatives du titre. Puis moi, je trouve que c'est un titre très beau parce que c'est aussi dans une époque peut-être un peu sombre, qui est la nôtre. L'horizon des possibles, prendre le maquis, disparaître dans la forêt, puis réinventer, voilà, c'est aussi quelque chose qui a à voir avec l'utopie. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les coulmes. Je fais un clin d'œil à Michel parce que je suis assez attaché à la forêt de Coulmes. Et cette forêt, bah, elle résonne de tout ça, quoi. C'est-à-dire que c'est l'appel, voilà, dans la lumière tamisée de la forêt, on peut réinventer. Et tous les utopistes, jusqu'à des utopies très contemporaines, aiment se projeter dans l'univers forestier, dans la sylve. Il y avait un poète. Poète résistant, dont j'ai oublié le nom, ça me reviendra tout à l'heure, qui disait qu'effectivement, on respire dans la forêt un air, la phrase, libéré des pestilences du nazisme ou quelque chose comme ça. Donc ce titre, pour nous, il était très fort. Alors, il est immédiatement suivi d'un sous-titre, Trace au pluriel, Histoire au pluriel et Mémoire. Trace, alors pourquoi Trace? Parce qu'on a essayé de réfléchir. Alors qui a été notre muse dans le choix de ce vocable? C'est un écrivain qui est Julien Gracq, que vous connaissez forcément, Le Rivage des Sirtes, hein, qui est un des grands auteurs du XXe siècle, qui a pensé métaphysique du temps, quoi, écrivain, géographe, philosophe. Et Gracq, dans un ouvrage un peu étrange, qui n'est pas un livre, qui n'est pas un roman, qui est plutôt le... des chroniques au quotidien de ce qu'il découvre dans la France ou dans l'Europe qu'il visite, qui s'appelle les Carnets du Grand Chemin. Il parle à un moment de ce qu'il appelle un paysage histoire. Un paysage histoire, pour lui, c'est un territoire qui est marqué par un grand événement, qui à un moment va faire que ce territoire, à jamais, sera distingué, hein, sera connu, reconnu, consacré, gravé dans notre dans la mémoire collective, parce que cet événement le fait exister. Je trouve que cette formule s'applique très très bien au Vercors. Et Gracq réfléchit beaucoup à ses réminiscences, ses traces, ce qui peut effectivement rester ici ou là, dans une géographie qui se recompose en permanence de tel ou tel accident, je dis accident ou événement de l'histoire. Histoire et mémoire, bien évidemment, la mémoire c'est très important parce que c'est ce qui... alors les anthropologues disent la mémoire c'est le présent du passé. Moi, j'aime bien parler de matière mémoire. Hein. La matière mémoire, c'est comme une pâte à modeler. Ça se forme, s'informe, se déforme, se reforme. C'est souple, c'est mou. Et c'est plein d'affects. C'est la chaleur du vécu. C'est extrêmement plastique. Et ça se redéploie, ça se réorganise tout le temps. Hein. Et donc, effectivement, on le sait très bien, lorsqu'on sollicite les souvenirs d'une personne, ce qu'elle vous dit là, à l'instant T, ce ne sera pas la même chose que ce qu'elle vous dira à une heure ou dans un autre contexte, à un autre moment de sa vie. Donc la mémoire, c'est quelque chose qui sans arrêt se redéploie, se réinvente. Et donc les individus, hein, ce qu'on peut appeler la mémoire individuelle, et les sociétés fabriquent, génèrent, hein, de la mémoire qu'elles réactualisent en permanence. Et alors, ça, c'est le fonctionnement normal d'une société et des individus. Après, il y a aussi les politiques de mémoire. Les politiques de mémoire... Elles ont pour vocation à donner un ordre, un discours, parfois peut-être même à les dompter, les mémoires, qui sont parfois capricieuses. Hein. La mémoire, c'est plein d'affects, je disais, donc c'est pas pacifié, ça peut être conflictuel. Hein. Il y a des mémoires dominantes, des mémoires légitimes, des mémoires suréclairées, des mémoires oubliées, des mémoires blessées. des mémoires occultées, etc., etc. Donc cette matière mémoire, elle est au cœur des interrogations du réseau Mémora. Et je vais vous tout de suite vous balayer peut-être un axe thématique qui a été nôtre pendant les premières années de notre réflexion. Comment est-ce qu'on peut passer d'une mémoire littérale à ce qu'on pourrait appeler la mémoire exemplaire? La mémoire littérale, c'est celle des acteurs légitimes, ce qu'on pourrait appeler les témoins oculaires, les acteurs, hein, c'est-à-dire celles et ceux qui ont vécu une expérience, j'y étais, hein, dont la parole peut être monumentalisée. Hein. J'étais là, j'ai vu, j'ai entendu, Mais cette mémoire-là, elle ne se diffuse pas forcément. Elle peut être intériorisée, elle peut être thésaurisée. Ça m'appartient. Et je vous interdis de parler de cette histoire. C'est moi qui la connais. Et puis, il y a la mémoire exemplaire, c'est-à-dire celle qui est transmise à des fins. Alors, des fins diverses, hein, notamment des fins d'édification de la jeunesse, par exemple. Ah, plus jamais ça. Eh bien, à partir de cette horreur que peut être la Shoah, eh bien, bâtissons une société de droit, de justice. Et donc... Le recours au témoignage, le fameux devoir de mémoire, qui est parfois une vision un peu étriquée, et qu'on mésinterprète parce que le devoir de mémoire tel que Primo Levi le pensait, c'était moi, en tant que survivant de la Shoah, je dois transmettre. C'est mon devoir moral à moi, témoin. C'est pas à celui qui reçoit qui doit se mettre au garde à vous et annoncer le champ des partisans. Hein, ça, c'est pas ça le devoir de mémoire tel que Levi le concevait. Et donc, on a parfois détourné le sens premier de sa réflexion. Alors on parlera peut-être plutôt de travail de mémoire, de cheminement de la mémoire, de en quoi elle vient effectivement nous mobiliser ou pas, nous interpeller ou pas, etc., etc. Et puis ce que moi j'aime beaucoup quand on travaille sur la matière mémoire, finalement moi j'ai fait un boulot, bon je suis historien, mais je suis un peu anthropologue, ethnographe je dirais même, hein, c'est-à-dire j'aime bien compiler les données. Et lorsque je discute avec des personnes, comment on pourrait dire, pour faire simple, face à la raison statistique, la loi du nombre, faire en sorte que, en particulier les représentants de groupes sociaux minorés, les immigrés, les agriculteurs, les femmes, etc., etc., puissent à un moment être légitimés comme sujet historique. C'est-à-dire la parole du témoin ordinaire, elle est aussi intéressante que celle du grand acteur qu'est Charles de Gaulle, par exemple. Hein? Tout le monde, nous sommes les passagers du temps, donc les agents de l'histoire. Et je crois que, alors, pour moi, c'est un engagement politique quand je vous dis ça. Émancipateur. Ça suscite énormément de débats, hein, dans nos groupes de travail, mais ça me semble important que le mot y figure au pluriel, hein, dans le sous-titre de l'ouvrage. Et puis histoire, alors, histoire évidemment, c'est la tentative, hein, de mettre justement à distance les affects, hein, de procéder à l'analyse distanciée, supposément froide, alors qu'on sait très bien que l'historien, il est plein de passion, mais quand bien même, il a des outils, il a une méthode. C'est les outils des sciences sociales pour effectivement essayer de donner une intelligibilité à un événement historique et puis également non pas établir la vérité avec un grand V, on n'est plus du tout dans l'histoire positiviste du 19e siècle, hein, plus personne n'y croit, mais donner des éléments de véracité en quelque sorte, hein. Aujourd'hui il me semble que les historiens sont beaucoup plus modestes que pouvaient l'être leurs aînés. Voilà pour le titre.